Bonjour cher Emmanuel et bonjour à tous. Quelles sont les conditions qui favorisent la rêverie? Quel type d'état, quel type de son entraîne les divagations nocturnes? S'il s'agit de ne plus dormir, mais de rêver, alors la meilleure chose à faire, c'est encore de suivre les conseils de Gaston Bachelard.
C'est par la radio qu'il faut faire du rêve éveillé. C'est la radio le soir qui doit dire aux âmes malheureuses, aux âmes lourdes, il s'agit de ne plus dormir sur terre. Il s'agit d'entrer dans le monde nocturne, dans le monde nocturne que tu vas choisir.
Laissons à la rêverie le temps de s'installer. C'est la rêverie de Schumann après la voix de Gaston Bachelard pour vous accueillir. Vincent Bontemps, bonjour à vous.
Bonjour Adèle, bonjour à toutes et à tous.
Bienvenue sur les chemins de la philosophie.
C'est un grand plaisir de vous retrouver.
Vous êtes philosophe des sciences et des techniques. Vous travaillez au LARCIM, au laboratoire de recherche sur les sciences de la matière du CEA. Vous avez écrit un livre sur Bachelard publié aux Belles Lettres il y a quelques temps et vous venez de faire paraître Bachelard et l'avenir de la culture aux éditions des Presses des Mines. Que veut dire Bachelard lorsqu'il identifie, il fait de la radio le moyen, le meilleur moyen en fait de susciter la rêverie?
Il trouve dans la radio deux composantes essentielles de ce qu'on peut appeler l'induction à la rêverie. D'une part, les mots, et on verra que Bachelard pense énormément les sons à travers les mots, la littérature, donc la musicalité peut-être autant ou davantage que la musique, mais aussi le son, qui est une composante donc indispensable de la parole, mais qui est aussi un lien avec l'inconscient. Et je crois que nos auditeurs ont pu le mesurer d'entrée de jeu en écoutant Bachelard et sa voix si reconnaissable, avec cet accent, cette façon de parler, je dirais ce chevrotement qui appartient à une distinction rhétorique d'avant la Seconde Guerre mondiale et qu'on trouvait dans des discours politiques ou académiques de l'époque et qui nous est tout à fait étrangère. Plus personne ne saurait parler avec cette forme d'hésitation ou de chevrotement.
Dans les médias, vous voulez dire, parce qu'il y a encore des personnes qui ont l'accent bourguignon aujourd'hui.
Et d'autre part, l'accent bourguignon est heureusement qui a été conservé, même si peut-être le regretter. D'une certaine manière, les médias de masse ont porté une influence un peu homogénéisante dans la façon de parler. Mais moi, personnellement, je suis quelqu'un très réceptif à cette saveur qu'on retrouve donc dans la voix à travers l'accent. Alors, pour ce qui est de Bachelard, son accent était bourguignon. C'est un champenois, mais Bar-sur-Aube se situe exactement à la limite d'influence culturelle de la Bourgogne. Donc, les maisons sont encore de type bourguignon et l'accent des gens du pays est donc celui de la Bourgogne, reconnaissable à son air roulé par exemple, et une assez belle façon de tourner autour des voyelles, voilà. Et donc, moi, je trouve ça extrêmement agréable.
Oui, en plus de dire des choses intéressantes sur la radio, d'avoir longuement pratiqué la radio, Bachelard a une voix qui, en elle-même, quand on la diffuse à la radio, est intéressante.
Bien sûr, elle est savoureuse et elle est porteuse d'induction à travers sa sonorité. On retrouve donc un lien avec, on pourrait dire, toujours le monde d'avant, d'une certaine manière. Il y a une forme d'archaïsme, mais pas d'un archaïsme de la pensée, on le sait bien sûr, parce que quand on écoute Bachelard, on est toujours pris au contraire par la modernité et la nouveauté de ce qu'on entend, mais un lien avec, justement, des puissances imaginaires qui ont un grand caractère d'authenticité et qui nous ramènent donc au monde d'avant, comme la forêt. Un voyage, une balade en forêt vous ramènera toujours vers le monde d'avant, mais ce sera aussi en partie dû au son des feuilles qui crissent sous vos pas et des choses comme ça. Donc j'essaye de me laisser porter, voyez-vous, un peu par la rêverie, mais je crois que la voix de Bachelard en est un excellent médium.
Eh bien, la voici à nouveau, un extrait de la causerie radiophonique qu'il avait proposée en 1949.
Vous trouverez vous-même qu'il y a une rêverie d'intimité, et cette rêverie est très communicable. Elle est communicable, pourquoi ? Parce que vous pouvez commencer par du pittoresque, vous pouvez commencer par du fantastique, vous pouvez commencer par quelque chose qui vous est personnel. Et puis, eh bien, surtout à la radio, eh bien l'auditeur, il vous entend, mais il ne vous écoute plus. Vous lui avez donné précisément ce germe de rêverie. Vous lui avez donné cette rêverie salutaire. Vous l'avez mis dans la perspective, vous l'avez mis sur le chemin, vous le poussez derrière les épaules. Vous dites, va, va, au fond de toi-même. Moi, je sais pas, mon chemin n'est pas tout à fait comme cela. Mon village était ensoleillé. Mais j'y cherchais des coins d'ombre. Et par conséquent, tous les coins d'ombre sont sympathiques les uns aux autres. Nous entrons dans la nuit, nous entrons dans la nuit, nous entrons dans notre nuit. Nous commençons précisément le chemin des rêves. Alors, vous avez, chez votre auditeur, je crois, donné l'impression d'un repos absolu.
Va, va au fond de toi-même, c'est ce que j'essaye de dire chaque jour à chaque auditeur, mais je ne sais pas si je suis entendue au même titre que Gaston Bachelard, qui lui, lorsqu'il parle, vous voyez là on a 1:16 d'extrait, c'est une chanson, il y a un début, une fin, une montée lyrique, où il dit « mais l'auditeur ne m'entend mais ne m'écoute plus », il attire l'attention, il sait susciter l'écoute en parlant à la radio.
Oui.
Vincent Montand.
Il sait susciter l'écoute, et ce qui est paradoxal, c'est qu'il suscite l'écoute au sens où, là, justement, il nous parle du moment où on cesse d'écouter, mais
c'est
où
ça.
On entend et où on va se laisser partir à la dérive. Il y a vraiment beaucoup d'enseignements à prendre chez Bachelard. Et il y a eu une dualité de son usage de la radio. C'est-à-dire que dans d'autres archives, vous trouverez Bachelard en train de faire cours à la Sorbonne d'histoire des sciences. Et dans ces cas-là, par la narration qu'il instaure, il y a bien une façon de prendre par la main l'auditeur, mais pour lui faire comprendre des choses. Donc il y aura tous les procédés de la pédagogie, comme la redite, la synthèse, l'établissement d'un bilan avant de passer à autre chose, vous voyez. Bon, et puis là on est dans autre chose qui a aussi ses règles. Par exemple, voyez-vous, il vous a parlé, sans utiliser de mots savants, mais il vous a parlé de ce qu'en rhétorique on appelle l'exorde, c'est-à-dire la façon de capter l'attention de l'auditeur. Commencer par une anecdote personnelle, quelque chose de piquant, de pittoresque, une image, quelque chose tout d'un coup qui vient capturer l'attention de l'auditeur, éveiller, susciter son intérêt, puis ensuite développer. Et puis là, il dit, mais en fait, dans cette seconde façon, ce second versant, celui qu'on appelle le versant nocturne, eh bien, ce n'est pas très grave si après l'esprit du lecteur qui a été justement allumé par cette étincelle suit sa propre voie.
Et au contraire même, la radio nous y invite, dit-il.
Il nous y invite parce que il y a quelque chose qui compte autant peut-être que l'usage pédagogique du langage de son côté diurne, c'est un usage thérapeutique. Il ne faut pas oublier que pour Bachelard, toutes ces histoires de poésie, de musique, de littérature, ce sont des façons de nous soigner. Et donc, c'est une façon de prendre soin de nous. Et donc, il nous invite à susciter et regagner le repos. Et ce repos n'est pas une stase, une immobilité. C'est une certaine forme de laisser-aller, de mouvement, quand l'esprit retrouve un élément qui lui est familier et dans lequel il peut épouser harmonieusement, justement, une forme de spontanéité.
Comment un philosophe comme Gaston Bachelard, philosophe français donc de la moitié du XXe siècle, qui a écrit sur les rêveries, on va y revenir, on l'a déjà un peu entendu, c'est une notion très importante chez lui, l'eau et les rêves, psychanalyse du feu, aujourd'hui on parlera aussi du droit de rêver, de la dialectique de la durée, beaucoup d'ouvrages qui mêlent une réflexion philosophique, scientifique et poétique. Mmh. En est-il venu à parler à la radio? Je parlais des causeries de 1949, il a occupé un espace à la radio, comment est-ce que ça a été possible?
Ah, c'est une bonne question. D'un point de vue purement historiographique, je me pose la question, mais j'imagine en fait que... Alors d'une part, il faut savoir qu'un certain nombre des gens qui travaillaient à la radio à cette époque étaient des gens qui avaient fait des études de philosophie. Donc il y avait des gens qui avaient une licence de philosophie, donc ils avaient pu suivre des cours de Bachelard. L'autre chose, c'est que je crois tout simplement que Bachelard c'est bizarre à dire, hein, mais c'est aussi son image qui a pu compter dans ce cas-là, incarner très précisément quelque chose pour lequel les gens de radio avaient une admiration spontanée. Et donc, c'est ce que vous avez évoqué, c'est à la fois le fait qu'il était le symbole du philosophe avec sa barbe blanche, sa sagesse, sa rigueur de raisonnement dans les matières scientifiques, ce qui explique pourquoi donc un certain nombre de cours ont été pratiqués, mais qu'il n'était pas plein de cette raideur académique qu'on pouvait trouver chez certains de ses collègues, et qu'au contraire, c'était un homme du peuple, de la campagne fondamentalement, et qu'il était et un bon vivant, il faut rajouter, et qu'il était donc capable de disserter aussi avec une grande aisance et on peut dire une certaine virtuosité sur le thème de la rêverie.
Et dit-il, on l'a entendu, la radio est ce qui va inviter le plus l'auditeur à la rêverie. Il y a donc une cohérence ici entre ses propos et la forme qu'il choisit pour s'exprimer.
Oui, et c'est aussi une cohérence avec ce dont on est en train de voir les deux versants, c'est-à-dire un bachelor qui épouse la modernité. C'est quelqu'un qui est né en 1883, donc dans une France qui se déplace à cheval, et qui va périr en 1962 dans une France qui vient de se doter de l'arme atomique. Et il aura vécu tout cela, hein, comme un témoin qui épouse son temps et qui aura toujours été du côté du progrès. Et de l'autre côté, c'est quelqu'un qui est très attaché et d'une façon subtile, pour éviter les pièges peut-être de gens qui exalteraient des valeurs, je dirais, de clôture autour d'un territoire. Lui, au contraire, son enracinement, c'est un enracinement vers l'ouverture, mais il est très attaché à des choses qui nous viennent du fond des siècles, et ça s'exprimera de façon très belle, très simple, dans la flamme d'une chandelle. Hein, le fait que quand nous regardons une bougie, nous pouvons retrouver des émotions qui étaient celles des hommes du Moyen-Âge.
Ce qui inscrit chaque expérience humaine dans un passé dont il hérite.
Oui, il y a une...
Un passé universel, en fait. Bachelard est très bon pour essayer de...
Il arrive à
capter
à
cette connexion entre l'intime et l'universel.
Ouais. C'est ça. L'universel et l'intime se conjuguent très bien parce que le média de la radio se prête à cette, on va dire, double écoute, qui est celle de la signification développée à travers les mots, qui peuvent constituer ce qu'il appellera une logosphère, une communicabilité des esprits d'un point de vue universel, ce qui est un événement, je veux dire, d'un point de vue anthropologique quand même tout à fait fondamental. C'est, il y a une poésie d'André Breton, qui doit dater des années 20, dans lequel il dit « il y a une expression qui est en train de prendre une extension formidable dans notre monde et qui résume toutes les promesses, les beautés et les illusions du monde moderne ». Il dit « c'est l'expression sans fil ». À cause de télégraphie sans fil, et de radio aussi. Donc, il y a une. Je crois que Bachelard, parmi toutes les révolutions technologiques et scientifiques auxquelles il a assisté, a aimé plus que d'autres celle de la radio. Et que par conséquent, cette idée d'ondes invisibles qui peuvent transmettre le sens est très importante, hein, d'un point de vue de la communication et peut-être, je veux dire, de la possibilité d'accorder les hommes entre eux. Et puis, il y a une autre écoute qui est celle, la radio, c'est aussi fondamentalement la transmission de la musique, du son, de ce rapport à notre inconscient, on peut dire collectif dans le sens de Jung, mais qui est... je dirais plus même un inconscient partagé.
On va entendre ensemble un texte, enfin plusieurs textes sans doute, de Bachelard, cette fois-ci lu par un comédien, mais avant cela, je ne résiste pas au plaisir de vous faire découvrir, ou peut-être redécouvrir, un autre extrait de cette causerie de Bachelard, où il parle précisément de cet inconscient. Il est assez étonnant de trouver ce mot-là, peut-être à cet endroit-là. On imagine un philosophe qui parle à la radio, qui parle de, certes des rêveries, mais aussi de sujets plus scientifiques, disiez-vous. Eh bien, se référer à l'inconscient comme étant le lieu où se rencontreraient diverses intimités, sans doute et une seconde de l'existence de cet inconscient, écoutez-le.
Il faut par conséquent que la radio trouve le moyen de faire communier les inconscients. C'est par l'inconscient qu'elle va trouver une certaine universalité. Et c'est pourquoi ça devient un paradoxe, parce que l'inconscient... C'est quelque chose que nous connaissons mal. Je sais bien que la psychanalyse, depuis le commencement du siècle, est en train de fouiller cet inconscient. Mais on en fait là aussi une parodie, on en fait aussi un thème qui est trop instruit. On vous enseigne la psychanalyse, mais on ne vous la fait pas vivre. Et alors, voici, par conséquent, le problème central. Est-il possible que des heures de radio soient instaurées, que des thèmes de radio soient développés, et qui touchent l'inconscient et qui, par conséquent, va trouver dans chaque homme le principe de la rêverie. C'est pourquoi le titre que j'ai pris est maintenant, je crois, tout à fait clair. Il s'agit de radiodiffuser les principes de la rêverie.
Radiodiffuser les principes de la rêverie, Bachelard a trouvé le moyen de le faire, ce sera donc effectivement la radio et la diffusion non seulement de sons, de réflexions, mais d'éléments qui permettent de susciter cet état d'esprit si particulier qu'on appelle la rêverie et qui a un lien très fort avec l'inconscient. Ici, on est encore plus dans un mélange de disciplines, Vincent Bontemps, c'est assez surprenant.
Oui. Notez bien que la radio n'est pas la seule à faire naître une rêverie. Hein. La poésie, la littérature le pourrait. Alors qu'est-ce qui est vraiment différent ? C'est ce que j'avais évoqué en disant, c'est certainement un inconscient qu'on devrait dire plutôt partagé que juste parler d'inconscient collectif, parce qu'on peut avoir l'impression qu'on a substantialisé ou que la chose existe, voilà, en dehors d'une expérience quand on parle d'inconscient collectif. Alors que là, c'est bien le média lui-même, et par le fait qu'il va induire donc chez un grand nombre de gens au même instant la possibilité de la rêverie, qu'on peut dire que l'inconscient va être partagé. Et bon, il y a toute cette subtile différenciation, ce positionnement en décalage de Bachelard par rapport au concept ordinaire du freudisme ou de la psychanalyse. Il avait accueilli Marie Bonaparte dans les locaux de la rue du Four pendant la Deuxième Guerre mondiale. Beaucoup lu hein, les psychanalystes de son temps, où il y avait d'ailleurs à l'époque une plus grande diversité. Et puis, il y a, je dirais, une pratique de la rêverie. Donc, ce que dit Bachelard quand il dit « c'est pas tant enseigner la psychanalyse qui m'importe que de produire une façon de vivre l'inconscient. » D'accord ? Et donc, à travers la radio, il y a une pratique différente de la littérature pour déclencher la rêverie. Et de là, l'idée que c'est aussi dans la programmation, hein, dans la façon de préparer une grille, on dirait, de nos jours, que se joue une forme de manipulation des inconscients, et qu'il y a quelque chose qui doit être bienveillant et qui doit permettre aux auditeurs, qui doit les accompagner au cours de la journée, du développement de la journée. Dans le texte qui s'appelle le droit, qui est consacré à la radio et qui se trouve dans un recueil qui s'appelle le droit de rêver. C'est donc un texte où Bachelard indique que il faudrait éviter les sons criards, excitants, trop aigu en quelque sorte, trop strident, voilà le mot que je cherchais, dans la fin de journée, et ménager au contraire des plages qui permettent aux gens qui sont fatigués, là, et qui ont besoin d'une décontraction aussi de l'esprit, de glisser dans cette rêverie. Donc on retrouve ce rapport un peu thérapeutique, vous voyez, mais qui passe à travers finalement tout un filtre technique. Il faudrait, je n'en ai pas les compétences, mais je sais qu'hier, vous avez reçu quelqu'un qui était...
Daniel Dehay, tout à fait, l'ingénieur du son.
Eh ben, je suis sûr que tout ce qu'il aura dit sur la façon de capturer, de traiter, de communiquer, donc de retransmettre le son, est très pertinent, probablement, pour comprendre les enjeux éthiques dont nous parle Bachelard.
C'était absolument passionnant. En tout cas, vous avez raison. J'invite tout le monde à réécouter cette émission et la parole de Daniel Dehay. Restons quand même avec Gaston Bachelard, Vincent Bontemps, puisque nous avons vu en quel sens, pour Bachelard, la voix à travers la radio était un instrument propice à la rêverie. Il y a plus. Qui dit voix dit certes tonalité, dit parole, mots, mais aussi en amont même une forme d'intériorité de la voix, cette intimité dont nous parlons. Cette intériorité se caractérise par un souffle. Et ce souffle, c'est celui qu'on trouve à l'œuvre, notamment dans la poésie, dans une forme de création par le langage. Alors écoutez ce texte qui s'appelle très joliment la déclamation muette. C'est le comédien Vincent Schmitt qui prête sa voix à celle de Gaston Bachelard.
Le souffle poétique, avant d'être une métaphore, est une réalité qu'on pourrait trouver dans la vie du poème si l'on voulait suivre les leçons de l'imagination matérielle aérienne. Et si l'on donnait plus d'attention à l'exubérance poétique, à toutes les formes du bonheur de parler, doucement, rapidement, en criant, en murmurant, en psalmodiant, on découvrirait une incroyable pluralité des souffles poétiques. Aussi bien dans la force que dans la douceur, aussi bien dans la colère poétique que dans la tendresse poétique, on verrait en action une économie dirigée des souffles, une administration heureuse de l'air parlant. Telles sont du moins les poésies qui respirent bien, telles sont du moins les poèmes qui sont de beaux schèmes dynamiques de respiration. Il est des mots qui, à peine prononcés, à peine murmurés, apaisent en nous des tumultes. Quand il sait les unir dans leur vérité aérienne, le poème est parfois un merveilleux calmant. Le vers âpre et héroïque sait garder aussi une réserve de souffle. Il donne à la voix brève qui commande une durée vibrante. À l'excès de force, il donne la continuité. Un air tonique, une matière de courage, coule à flot dans le poème. Toute poésie, non seulement la poésie déclamée, mais la poésie lue en silence, est sous la dépendance de cette économie primitive des souffles. Les types imaginaires les plus divers, qu'ils appartiennent à l'air, à l'eau, au feu, à la terre, dès qu'ils passent de la rêverie au poème, viennent participer à une imagination aérienne par une sorte de nécessité instrumentale. L'homme est un tuyau sonore. L'homme est un roseau parlant.
C'est parce qu'on sait bien, chers auditeurs, que la plupart du temps vous nous entendez sans nous écouter, comme le disait Bachelard, que nous trouvons les moyens différents de vous inviter à davantage de rêverie encore. C'est le but de cette émission, de toutes les émissions sur France Culture. Vous le savez bien, Vincent Bontemps, il s'agit de pour attirer et favoriser l'écoute, il faut savoir aussi introduire cette douceur, cette liaison des notes qui fait qu'on écoute un texte différemment lorsqu'il est suivi d'un silence, d'une musique ou d'une prise de parole à nouveau.
Oui. On touche ici maintenant au paradoxe, qui est que en suivant la piste sonore, on en arrive à parler du silence. Donc, dans le texte que nous venons d'écouter, Bachelard parle de cette activité très particulière qui consiste à lire de la poésie. Et donc, quand on lit de la poésie, il y a plein de facteurs qui rentrent en jeu. Je veux dire, la disposition des mots sur la page peut avoir son importance, mais pour ce qui est de la lecture, elle est toujours suivie d'une elle est toujours accompagnée de sa vocalisation, mais cette vocalisation peut être tout à fait muette. Et donc, tout de même, ça sera une lecture différente de la lecture silencieuse d'un texte en prose, d'un texte narratif qui nous reste éventuellement dans l'oreille, mais ce n'est pas la même chose. La poésie demande finalement cet usage de la sonorité silencieuse à l'intérieur de nous. Et rappelez-vous ce qu'il dit sur « il y a certains mots qui permettent, un peu comme une gymnastique, de rythmer notre lecture ». Il prend un exemple qui est très parlant, il parle des mots « vie » et « âme ». Eh bien maintenant, je vous invite à prononcer une fois ces mots pour sentir la façon tout à fait différente dont les prononce et les muscles différents qu'ils animent. Et puis, ensuite, tout simplement de penser à ces mots, hein, comme si vous les lisiez.
Il écrit un « la », « a » avec l'accent circonflexe, et la voyelle « soupirer ». Le mot « âme » met un peu de substance sonore sur la voyelle « expirer », un peu de matière fluide qui donne un réalisme au dernier soupir.
Oui, et l'alternance de « vie » et « âme », c'est une respiration. C'est donc, on est là au plus proche du souffle, et il y a donc cette présence très subtile et paradoxale du son dans le silence qui fait que, comme vous l'avez dit, il y a des silences qui sont des silences ouverts, des silences vibrés, parce que ce qui les a précédés et l'attente qui les accompagne font que ce sont des instants riches, accueillants, avec une signification. Alors on sait tous qu'il y a des silences, au contraire, qui vont être des silences gênés, des silences fermés, absents, moroses. Hein. Eh bien, c'est plus que juste une tonalité psychologique, c'est aussi une réalité qui est liée à ce souffle, cette façon dont nous avons de animer les mots, les silences, les sonorités, et ça nous amène à ce constat qui est que quand nous parlons du son sous l'égide de Bachelard, nous ne parlons jamais d'un son immédiat et pur, nous sommes toujours déjà dans un espace imaginaire, on reçoit le son.
Mais alors précisément, ce souffle dont il parle, le souffle poétique, est-ce une métaphore ou parle-t-il du souffle que l'on prend avant de prendre la parole ?
Moi, je crois que c'est là qu'est la beauté de cette métaphore du souffle, c'est que ça vient chercher quelque chose qui est une antériorité, et donc le son est antérieur à l'image, le son est quelque chose de profondément inducteur par rapport à l'inconscient, et le souffle est sa condition qui peut être présente même quand la réalisation est silencieuse. Et puis, en même temps, le souffle, c'est aussi la métaphore de la vie. Donc, ça veut dire que, dès le départ, quand on veut avoir un contact avec ce qu'il y a de plus profond, de plus primitif, en fait, on est livré aux puissances de la métaphore. Et donc, en fait, on est déjà dans un mouvement imaginaire.
Dès lors que l'on prend son souffle, on est dans un mouvement imaginaire.
Je pense. Je pense que la façon de le... En tout cas, la façon que j'ai, moi, de comprendre. Il y a d'autres gens qui ont travaillé sur ces questions et peut-être qu'ils ont un avis différent. Mais je crois qu'il n'y a pas un plan de naturalité pure, esthétique chez Bachelard. Je crois que ce qui est propre à l'écoute, c'est qu'elle est toujours une activité qui va être prise dans une forme de dialectique entre ce qui est reçu et ce qui est réverbéré en nous. Hein. Il y aura une notion très importante qui sera le retentissement, par exemple, chez Bachelard. Dans son œuvre, je pense que c'est dans la dialectique de la durée, la notion de retentissement intervient pour expliquer quelque chose. Ben, je crois que les gens de radio sont assez réceptifs à cette notion. Ça veut dire que ce qui compte, c'est pas le bruit qu'on suscite à un instant, hein, mais un son important ou un événement important dans notre vie. C'est quelque chose dont on entend l'écho longtemps. En fait, je crois qu'il y a beaucoup des termes de Bachelard parlent aux gens de radio pour des raisons techniques.
Et aux gens qui écoutent la radio, même.
J'espère qu'ils ont aussi développé cette
affinité. Ce retentissement dont vous parlez, c'est le souvenir qu'on peut avoir d'une parole, d'un silence,
exactement,
d'un moment.
Et cet usage du silence, c'est vraiment quelque chose que, je crois, c'est les gens qui enfin, on peut difficilement se permettre du silence dans d'autres médias, mais je crois qu'à la radio, c'est le plus difficile de savoir laisser du silence et qu'il soit signifiant. Je veux dire, c'est pas juste on a perdu l'antenne dont je parle, c'est un signifiant, c'est un silence décidé. Et pourtant, c'est ce qu'il y a de plus profond peut-être et de plus dur à écouter. Je sais pas si vous avez vu cette manifestation aux États-Unis par ces jeunes qui veulent qu'il y ait des lois pour retirer les armes. Ils ont une leader qui a pris la parole et à la fin de son discours, oui, mais ce qui est le plus mémorable dans son discours, c'est les 2 minutes 40 où elle s'arrête de parler.
Plus fort que John Cage.
Très certainement. On y viendra peut-être, mais je pense que John Cage est sur une conception du silence qui est précisément est étrangère à Bachelard.
Pourquoi ça?
Parce que c'est une découpe dans une continuité. Voilà. Alors que Bachelard, c'est un silence qui est fait d'une toute autre durée, qui n'est pas la durée bergsonienne, mais qui est un espace dans des rythmes.
Alors là, on va arriver au Bachelard plus technique, qui est tout aussi fidèle à Bachelard que tout ce que nous venons de dire. Finalement, parler de radio quand on parle de Bachelard est peut-être une bonne manière d'inviter les gens qui ne le connaîtraient pas à le lire. Il y a cette dimension métaphysique, comme vous le dites, de la durée, qui est très importante chez Bachelard, y compris dans sa réflexion sur le son.
Alors, il a écrit deux livres de métaphysique, ils ont rapport à la question du temps. Et donc, les deux livres, en plus, sont des livres polémiques. Ils sont dirigés essentiellement contre la conception du temps de Bergson. Et dans le deuxième, il y a une discussion assez serrée qui reprend des arguments développés par un musicologue qui s'appelle Maurice Emmanuel. Et elle a rapport à un très vieux topos de la philosophie qui est la définition du temps à travers l'exemple de la mélodie. Alors c'est quelque chose en fait que saint Augustin utilisait déjà dans les Confessions, au livre 10 ou 11, et que Bergson reprend, et Bergson vous dit, eh bien écoutez, quand vous écoutez une mélodie, chaque note en fait signale la présence des autres. Donc c'est instantanément, vous avez l'impression que la note n'existe que dans l'instant, mais en réalité comme c'est la mélodie qui existe, c'est comme si vous aviez accès à une continuité. Et donc la conception de Bergson, pour faire simple, c'est un flux continu dans lequel il y a des inflexions. D'accord ? Le flux est premier, la continuité est première. Et ce à quoi Bachelard va répondre, en fait, si vous avez cette impression de continuité quand vous écoutez une mélodie, c'est parce que ce n'est pas la première fois que vous l'entendez.
Qui est une mémoire de la mélodie.
Vous l'avez déjà écoutée, en fait, elle revient, et c'est pour ça que vous vous attendez à chaque note à la hauteur et à la distance dans le temps de la suivante. En réalité, il n'y a bien que des instants, mais les instants construisent la durée à la fois dans les intervalles et surtout par le rythme, par leur retour. C'est pour ça d'ailleurs que souvent les mélodies dont on se souvient sont celles des refrains. Et ça nous ramène à une question traitée donc par Maurice Emmanuel et qui est là où ça va rejoindre nos auditeurs, vont le voir enfin la question avec John Cage, qui est la question de la mesure. Quand on écrit une portée, on peut tracer des barres verticales qui sont la mesure. Toute la question de savoir est-ce que ce découpage objectif est premier et nous posons les notes par-dessus ce découpage, dans ce rythme, ou est-ce que ce n'est qu'une pure abstraction et en réalité c'est le rythme lui-même qui va donner l'intervalle qu'il y a entre chaque mesure. Est-ce qu'on pourrait donner des coordonnées spatio-temporelles précises et préalables à chaque note, ou est-ce que c'est l'exécution qui va déployer un espace-temps d'expression propre et dans lequel donc la durée sera un effet second?
En d'autres termes, crée-t-on à partir du rythme ou de la mélodie? On peut le dire comme ça?
En effet,
et il y a peut-être deux faces,
la mesure surtout, parce que on crée aussi de la mélodie. On n'est pas forcément que dans les musiques rythmiques, mais il est vrai que Bachelard, de sa manière, ouvre à la compréhension de ces musiques qui sont des superpositions de rythmes.
Et de toute façon, on ne peut pas penser la mélodie sans rythme. Il y a toujours un rythme et une mélodie.
Je ne suis pas musicologue, donc je ne suis pas sûr que je puisse répondre par affirmative, parce que je suis sûr qu'on a pu.
Mais quand on fredonne une mélodie, de toute façon, et même quand on l'écrit, selon des noirs, croches, blanches, il y a un rythme inhérent à toute mélodie qu'on peut changer.
Oui.
Mais on ne peut pas concevoir une mélodie sans rythme.
Mais la question est de savoir, est-ce qu'on conçoit le rythme en ayant un métronome qui bat la mesure et qui est déjà là, ou est-ce qu'on va inventer son propre métronome? Est-ce que c'est les battements de notre cœur qui accélèrent ou qui ralentissent qui seront la vraie mesure, entre guillemets, en fonction des émotions de la mélodie? Alors, je pense qu'il n'y a pas de consensus là-dessus. C'est une discussion métaphysique et même en musicologie, je pense qu'il n'y a pas de consensus. Mais je peux citer quand même l'avis d'Olivier Messiaen, qui dans son traité de rythme, de couleur et d'ornithologie, se référer à Maurice Emmanuel et à Bachelard pour donner son acquiescement à ce second point de vue. C'est-à-dire à l'idée que il y a d'abord un rythme et sa spontanéité et un découpage, et ensuite seulement il y a une durée objective qui va intervenir. Et donc vous voyez, John Cage, ce serait l'autre point de vue. C'est l'idée, je découpe un silence dans un flux, et donc je peux mettre une durée, je dis 4 minutes 38 de silence.
Parce qu'il est l'auteur d'une pièce qui consiste à proposer un certain nombre de minutes de silence. C'est présenté comme un morceau de musique et c'est du silence.
Alors, c'est une manière de découper.
C'est des enjeux profonds, puisqu'on peut penser que la musique, c'est une écriture, et le premier signe de l'écriture musicale, c'est le soupir. Et c'est un signe silencieux.
On retrouve le souffle.
Et on retrouve le souffle.
Alors, pour ne pas être trop abstrait, voici un exemple, un extrait d'une mélodie reprise. Donc, une mélodie que vous connaissez peut-être, c'est la Rêverie de Debussy, qui est reprise en version jazz. Écoutez. Vincent Bontemps, peut-on expliquer ce qui distingue Bergson de Bachelard ou ce que Bachelard reproche entre guillemets à Bergson à partir de ce que nous sommes en train d'écouter ? Est-ce qu'il y a deux écoutes différentes, l'une qui s'intéresserait davantage à la durée et l'autre davantage au rythme ?
Alors, en fait, je voudrais dire qu'il y a, comme dans les questions métaphysiques, vous avez le droit d'avoir une écoute bergsonienne comme une écoute bachelardienne. Si vous avez une écoute bachelardienne, vous êtes en train de vous demander par quelle activité de votre imagination, au moment où vous écoutez cette version jazz, vous vous souvenez encore de la version de Debussy classique ou romantique. Et dans ces cas-là, vous percevez que finalement, toute écoute de musique est une activité dialectique. Nous sommes, et ça nous amène à une compréhension d'ailleurs assez fine de ce phénomène dont nous avions une première version, peut-être plus proche du sens commun avec Bergson, hein, qui disait, bon, chaque note dessine la continuité d'une mélodie. Et bien là, avec Bachelard, vous demandez plutôt comment chaque note, quand elle arrive, eh bien, amène dans une réverbération de l'imagination l'attente d'une hauteur et d'une distance temporelle pour la note suivante et comment elle se lie à la précédente et comment toutes ces activités se mêlent en vous sans qu'il ait besoin de les intellectualiser outre mesure et pourquoi donc les sons sont toujours imaginés. Voilà. Et que c'est toujours une activité dialectique par laquelle, et l'accompagnement a son importance donc, il y a une consolidation des rythmes dans notre existence. Il n'y a pas de durée qui nous soit offerte et donnée et qui soit entièrement objective et entièrement pure. Il y a finalement une façon d'accorder un spectre de réception sensorielle avec un spectre de réception, enfin d'expression imaginaire et peut-être même idéale pour quelqu'un qui a une représentation justement quasi mathématique de la musique, comme un interprète ou un chef d'orchestre doit l'avoir aussi en tête. Tout cela va vous permettre de faire une forme d'intégration, je dirais, existentielle du son, hein, de pouvoir le vivre. Et vous pouvez vivre un son parce que vous n'êtes pas juste collé, plaqué à la réception sonore.
C'est-à-dire qu'il fait aussi partie de vous, que le son, vous n'êtes jamais que récepteur du son, c'est
non,
ça ?
Non, on n'est pas seulement récepteur, on est toujours acteur du son. Il y a peut-être à considérer, vous voyez, par exemple, la différence entre les différents sens à cet égard. Le son a une originalité propre. Quand vous êtes dans la vision, vous avez la possibilité de fermer les yeux, de détourner le regard, vous pouvez surtout avoir une conscience vraiment aiguë que vous construisez votre vision, parce que vous découpez par rapport à ce que vous êtes capable de reconnaître dans votre environnement. Donc l'intellectualité et le contrôle que nous avons de la vision, c'est pour ça que la théoria, hein, c'était la vision, eh ben, c'est quelque chose de fortement connu, pratiqué. Les philosophes font très souvent des analogies avec la vision. Bien. Maintenant, si on allons de l'autre côté et que nous allions voir le sens de l'odorat. L'odorat, vous pouvez respirer par la bouche, mais disons que l'odorat va vous saisir d'abord très fortement, vous polariser, vous allez aimer ou ne pas aimer ce que vous sentez, d'accord ? Et puis c'est ça qui va vous évoquer aussi des puissances intimes, vos premières émotions. Enfin, on sait que c'est lié dans le cerveau aux émotions les plus anciennes, les plus archaïques. Hein. Donc, il y a quelque chose dans l'attachement, dans l'animalité, on va dire. Et dans nos sociétés, il y a un refoulement très très fort des odeurs. D'accord ? Donc, maintenant, prenons le son. Le son, pour ainsi dire, tient un milieu assez, assez subtil dans ces deux acteurs. Parce que on doit faire un geste avec ses mains pour se boucher les oreilles, mais néanmoins, nous savons très bien que nous pouvons avoir une différence entre le simple fait d'entendre et le fait d'écouter. Mmh. D'accord ? Et que cette écoute peut être distinctive. Nous pouvons faire un effort à un moment donné pour oublier...
L'écoute demande davantage d'attention que le fait d'entendre.
Ouais. Et pourtant, la nature du son nous touche différemment de celle de l'induction par la vision. Hein, notre prise de distance est inférieure. Et ça nous ramène donc à une primitivité. Donc vous voyez, le son tient cet entre-deux vraiment très fort où nous pouvons à la fois être en connexion avec l'intimité et avoir conscience de l'activité dialectique de notre imagination.
Vous employez le terme de dialectique. Allons-y. C'est le titre d'un ouvrage de Bachelard, Dialectique de la durée, que vous citez sans le citer depuis un moment, d'ailleurs Vincent Bontemps. Oui. Donc allons dans ce texte, qui est peut-être un peu plus technique que le précédent, mais l'extrait qu'on a choisi est assez clair. Il permet de répondre à la question de savoir comment se fait-il que quand nous écoutons un son, nous ne sommes jamais que récepteurs. C'est ce que vous avez dit. Selon quel phénomène pouvons-nous être peut-être aussi auteurs du son que nous écoutons ? Écoutez.
Aucune expérience temporelle n'est vraiment pure. On n'a qu'à examiner n'importe laquelle des images de la continuité, on y verra toujours les hachures du discontinu. Sur le plan musical, par exemple, il nous faudra montrer que ce qui fait la continuité, c'est toujours une dialectique obscure qui appelle des sentiments à propos d'impressions, des souvenirs à propos de sensations. Autrement dit, il faudra prouver que le continu de la mélodie, que le continu de la poésie, sont des reconstructions sentimentales qui s'agglomèrent, par-delà la sensation réelle, grâce au flou et à la torpeur de l'émotion, grâce au mélange confus des souvenirs et des espérances. Par conséquent, sur des plans bien différents du plan où nous cantonnerait une étude scientifique des contextures purement sonores. Soulignons d'abord ce reflux de l'impression qui remonte du présent au passé et qui vient apporter au rythme, à la mélodie, à la poésie, la continuité et la vie qui leur manquaient dans leur première production. Il suffirait d'une inattention à la mélodie pour arrêter ce reflux. Alors les notes successives ne chantent plus, elles restent dans la discontinuité qualitative et quantitative où elles sont produites. Les sensations ne sont pas liées, c'est notre âme qui les lie.
Vous écoutez France Culture, Les Chemins de la Philosophie et Gaston Bachelard, lu par Vincent Schmitt. Dans cette série d'émissions sur le son, philosophie du son, aujourd'hui chez Gaston Bachelard, on a beaucoup entendu sa voix à la radio, puis certains textes de lui, et celui-ci, Vincent Bontemps, qui est avec nous en studio pour essayer de comprendre le rapport de Bachelard au son, nous donne la clé qui nous manquait pour comprendre ce que vous disiez, même si tous les éléments que vous nous avez donnés depuis le début de l'émission nous permettent sans doute de comprendre ou de rendre ce texte un peu plus intelligible. Les sensations ne sont pas liées, dit-il, c'est notre âme qui les lie. Le son ne serait rien sans cette liaison interne que nous opérons lorsque nous écoutons ce son.
Oui, c'est l'épaisseur du temps. En fait, hein, la clé de l'histoire.
L'épaisseur du temps.
Oui. Quand on choisit des analogies, des métaphores, d'un point de vue métaphysique, on gagne des choses, on en perd d'autres. Alors celle qui est peut-être perdue au moment où on choisit le chemin de Bachelard par rapport à Bergson, c'est l'idée, l'intuition quasi religieuse d'un temps qui va s'accumuler comme un sédiment, qui va s'enrichir. Bien. Donc un flux croissant. Maintenant, en revanche, qu'est-ce qui est gagné ? Qu'est-ce qui est gagné dans cette construction ? C'est d'abord une certaine finesse par rapport à donc, l'activité qu'il a décrite sur la mélodie. Et vous pouvez voir, qu'est-ce qu'il a dit ? Il a dit, en fait, c'est parce que l'émotion va chercher en nous des strates temporelles différentes, des souvenirs, des rêveries, des souvenirs de rêveries aussi, donc des souvenirs qui sont orientés vers des futurs possibles, et qu'elle va pouvoir les concentrer en chaque instant et donc recréer. Et ça, ça crée quoi ? Ce qui est vraiment gagné, c'est une dimension différente du temps. Dans chaque instant, il va y avoir une verticalité. Il va y avoir la possibilité de notes à différentes hauteurs, de rythmes qui peuvent être à différentes fréquences, des rythmes très bas qui vont chercher dans notre existence des événements très très importants, comme la naissance, la puberté, les premiers amours, choses comme ça, qui peuvent tout d'un coup avoir une résonance. Des notes plus de moyenne temporalité, voilà, avec des rythmes que nous observons depuis longtemps, qui rythment notre vie, votre rapport à votre métier, à votre casque quand vous faites de la radio. Et puis, il va y avoir des rythmes qui sont ceux du temps court. Eh bien, ces choses ces résonances-là peuvent se compiler, se consolider, voilà le vrai terme, en un instant. Et ça va donner des événements décisifs dans votre vie, quand différents rythmes, tout d'un coup, vont rentrer en résonance et que vous allez pouvoir construire votre vie en choisissant quel rythme vous voulez continuer de prolonger dans votre vie, quels sont ceux qui s'en vont, qui nous quittent par moment dans notre corps. Nous pouvons sentir des rythmes qui nous quittent.
Là, vous ne parlez pas de rythmes musicaux.
Mais les rythmes musicaux ne vont pas échapper à cette règle, en fait. C'est pas simplement une métaphore, c'est que dans l'écoute de la musique se joue aussi pour un vrai mélomane quelque chose qui a un rapport avec le sens de l'existence, avec le souvenir de grandes interprétations qu'il a pu écouter dans telle salle de théâtre, avec le fait de revoir un interprète des années après, avec le fait d'écouter sur une platine vinyle plutôt qu'en CD tel enregistrement, avec le fait d'avoir rencontré sa femme ou son mari sur une piste de danse avec ce morceau-là de musique. Donc je veux dire, la musique est véritablement ce qui fait que le son nous accompagne dans la vie.
Et là, que ce soit musique classique, jazz ou chanson populaire.
Bachar avait probablement des goûts très classiques, mais moi je crois que c'est tout à fait
universel.
Mais
si c'est une affaire de rythme, alors dans ce cas, ça concerne tout type de musique.
Il y a les deux choses. Il y a le rythme de notre existence, et donc voilà, et le rythme de la musique. Mais les deux peuvent très très bien se conjuguer, et ce n'est pas simplement un rapport métaphorique.
Donc le goût que nous avons pour certains types de musique, plus que d'autres, est l'expression d'un certain rapport rythmique à notre propre existence.
Exactement. Moi je sais que quand j'écoute certaines musiques, eh bien, je me retrouve dans un état particulier lié à mon existence personnelle, qui était que j'écoutais beaucoup cette musique à une époque où, par exemple, j'étais obligé de me concentrer pour quelque chose que vous connaissez bien, c'est passer des concours de philosophie. Et donc, je faisais énormément de lectures, et donc, j'écoute cette musique, et tout de suite, j'ai une induction d'une rêverie intérieure qui est liée à ses auteurs. Des fois, ça peut être lié à des lectures de plaisir, de science-fiction, de je ne sais que sais-je, des choses comme ça. Mais il y a forcément des musiques chez nous qui vont être le retour à des souvenirs, mais ces souvenirs sont aussi ils n'ont pas été marqués par hasard dans notre existence.
Mais le lien, c'est la mémoire, parce que qu'est-ce qui fait que tel agencement de notes et de rythmes dans telle musique que je vais écouter me parle autant et me donne l'impression de s'adresser directement à moi, si ce n'est parce que je les associe à la mémoire d'un temps passé, ce que vous venez de dire, à un moment où vous passiez des concours ou autre.
Et c'est bien là que se retrouve toute l'ambiguïté, pas l'ambiguïté.
On n'est pas loin de Bergson là quand même.
Eh bien j'allais dire, dans votre formulation, pour être encore chez Bachelard, il faut faire attention à une phrase que vous avez dite, qui a dit, c'est parce que j'associe...
Voilà. Je suis trop bergsonienne.
Non, pas du tout. C'est parce que on peut croire qu'on est chez Bergson si jamais on se retrouve aussi chez Saint-Augustin, c'est-à-dire dans l'idée qu'il y a une mémoire préexistante dans laquelle on se balade et où il y a des souvenirs qui sont rangés dans des casiers. Mais si on demeure fidèle à l'activité que vous aviez signifiée en utilisant l'idée, c'est parce que j'associe. Alors, on se retrouve du côté d'une activité dialectique qui consiste à dire que votre imagination est à l'œuvre et que c'est elle qui construit la mémoire. Que votre mémoire n'est pas un pays que vous parcourez, mais bien une construction
que
vous
refaites non plus.
En permanence. Non, c'est plutôt ce que dit Saint-Augustin.
Oui,
ça c'est exact.
Bergson est contre l'idée d'une représentation figée de la mémoire.
Oui, il est contre de toute façon les formes de spatialisation. Toutefois, dans mémoire, matière et mémoire, se pose l'idée qu'il va y avoir une sorte d'indépendance et d'une spiritualité où la mémoire peut être la trace d'une cumulativité du temps. Avec Bachelard, on sera tout à fait autre chose. C'est en vous entraînant tous les jours à vous souvenir que vous pouvez avoir cet entretien d'une dialectique qui permet de décider une fois de plus quels sont les rythmes qui doivent vous quitter, les mauvaises habitudes que vous ne voulez plus reproduire et quels sont les rythmes qui donnent de la beauté à votre journée et que vous voulez continuer d'avoir.
Et là, on n'est plus dans le son du tout. Quel lien entre le rythme et le son ?
Une fois de plus, je pense que c'est un rapport métaphorique, c'est un rapport analogique, mais le son peut nous accompagner, disons, longtemps dans cette quête, dans la mesure où il évoque, il est le média, il est le milieu dans lequel cette activité dialectique est assez évidente. Il y en aurait une autre, je vais la donner, c'est le fait de boire du vin, de goût. Quand vous buvez du vin, si vous ne buvez pas du vin pour vous abrutir, mais pour goûter le vin, eh bien, la sensation est prise dans cette activité dialectique. D'une part, un vin qu'on savoure vraiment, c'est un vin qui a des notes très superposées, donc on sent cette superposition, cette vertige. Et d'autre part, j'aime beaucoup rappeler toujours cette phrase de Bachelard qui dit « On croit que je bois, je me souviens ».
Eh bien, on va se quitter avec un verre de vin, c'est une mélodie de Chet Baker, « Imagination ». La rêverie à l'imagination, du rythme aux notes, du son, puisque c'est le sujet de cette émission grâce à vous. Vincent Bontemps, vous vouliez rendre, avant que l'on se quitte et qu'on donne la parole à Géraldine Wesner-Savoie, un hommage.
Oui, je veux rendre hommage à la mémoire d'Éric Emery, qui nous a quittés la semaine dernière. C'était un mathématicien, un musicien, un philosophe, et qui s'est beaucoup occupé de la mémoire d'un philosophe qui s'appelait Ferdinand Grosset et qui était, pour ainsi dire, le petit frère suisse de Gaston Bachelard. Donc, avec la disparition d'Éric Emery, c'est toute une communauté qui est en deuil et une communauté qui s'étend au bachelardisme, je veux dire.
Merci à vous, en tout cas Vincent Bontemps, d'être venu nous parler de Bachelard aujourd'hui. Et je renvoie les auditeurs à votre ouvrage qui vient de paraître aux Presses des Mines, Bachelard et l'avenir de la culture, du surrationalisme à la raison créative. Sur France Culture, les chemins de la philosophie, la trompette de Chet Baker vous conduit vers le journal de la philo de Géraldine Wesner-Savoie.
On n'est pas là pour philosopher, Carpentier.
Quand même, c'est incroyable.
Bonjour Géraldine.
Bonjour Adèle, bonjour à toutes et à tous.
Aujourd'hui, pour votre journal de la philo, vous nous parlez de héros.
Oui, la semaine dernière, j'évoquais Arnaud Beltrame, ce gendarme qui a sacrifié sa vie et que l'on a spontanément qualifié de héros. À notre époque plutôt bercé, autant dans les fictions que dans les réflexions par les super-héros, l'usage de ce terme de héros était frappant. Mais aujourd'hui, ce n'est pas sur cet usage que j'aimerais revenir, mais sur le sens même de héros. Et ça tombe bien, l'occasion m'en est donnée avec la réédition d'un grand ouvrage de l'historien et anthropologue Claude Calam, Thésée et l'imaginaire athénien.
Qui es-tu ? Tu le vois bien, celui que tu attends.
Non, tu n'es pas Thésée.
Tu as l'oreille fine. Je n'ai donc pas exactement le son de ta voix.
Tu n'es pas Thésée.
Approche-toi. Tu verras que j'ai le même visage, le même vêtement, la même respiration. Approche-toi donc.
Tu n'es pas Thésée.
À quoi reconnaît-on un héros ? À son courage, à sa force, à sa naissance, à son style, à ses aventures, ou à la trace qu'il laisse dans les esprits et dans les mœurs, à la manière aussi dont il suscite notre imagination ? Dans le cas d'un héros mythique comme Thésée, puisque c'est le héros choisi par Claude Calam, on pourrait répondre que, d'abord, c'est une manière de s'habiller. Oui, ici, dans ce livre, sont détaillées, j'ai beaucoup aimé, toutes les tenues de Thésée, alors tantôt nues, tantôt en citoyen hoplite ou en voyageur, je cite, pétase à large bord, cheveux repliés, épaules parfois couvertes d'une chlamyde. Et puis, on peut aussi reconnaître un héros aux rencontres qu'il fait avec des femmes rusées, amoureuses ou sages, Ariane ou Aphrodite dans le cas de Thésée. Ou alors, un exploit face à un monstre, le Minotaure, et bien sûr, au pouvoir, le pouvoir royal à Athènes, aussi pour Thésée. Mais avant cela, avant tous ces attraits, toutes ces rencontres et toutes ces actions, un héros, pourrait-on dire, se reconnaît tout simplement au récit dont il est justement le héros, vainqueur ou pas, fort ou pas. Chronique, tragédie, film et opéra, comme celui d'Handel, un héros se reconnaît bien à tous les récits qu'on fait de lui. Thésée, à cet égard, avec toutes ses apparitions chez Plutarque, Ovide ou Sophocle, mais aussi tous les cultes dont il a fait l'objet, alors je ne sais pas si vous les connaissez, les oscophories, les pianopsies ou les cyberneia ou les théséia, c'était des cultes qu'on rendait à Thésée à Athènes. Donc Thésée est bien le héros d'un mythe, de ce qui est appelé une logique narrative et de rite où il est célébré, de ce qui est appelé une logique d'action. Et ce qui est frappant ici, c'est que le héros l'est très certainement pour tout ce qu'il présente, ce qu'il est, des qualités physiques ou intellectuelles et ce qu'il fait, mais surtout pour tout ce qu'il représente, tout ce qu'on y voit et tout ce qu'on en fait. Alors on ne pourrait bien sûr pas prendre n'importe quel personnage et en faire un héros, il faut qu'il y ait quand même une matière première, mais le héros a quand même quelque chose du simple moyen qui justifie un récit et une fin. Et Thésée est ainsi moins intéressant pour lui-même que pour ce qu'il permet de penser. Mais alors quel rôle joue-t-il pour ses lecteurs, qu'il s'agisse d'un inconnu ou de Racine ?
Et lorsqu'avec transport je pense m'approcher de tout ce que les dieux m'ont laissé de plus cher, que dis-je ? Quand mon âme à soi-même rendue vient se rassasier d'une si chère vue, je n'ai pour tout accueil que des frémissements. Tout fuit, tout se refuse à mes embrassements, et moi-même, éprouvant la terreur que j'inspire, je voudrais être encore dans les prisons des pires. Parlez ! Phèdre se plaint que je suis outragé. Qui m'a trahi ? Pourquoi ne suis-je pas vengé ? La Grèce, à qui mon bras fut tant de fois utile, a-t-elle aux criminels accordé quelque asile ?
Lévi-Strauss, Kaiwa, Girard ou Eliade, beaucoup ont rappelé le rôle joué par les mythes dans notre connaissance du monde, mais quel est le rôle joué par un héros précisément ? Ou plutôt, quel est le rôle que l'on fait jouer à un héros ? Avec Thésée, ce qui est passionnant, c'est qu'on voit en lui, avec son expédition en Crète où il a tué le Minotaure et son retour où il est devenu roi d'Athènes, le héros fondateur de la cité antique. On lui fait jouer le rôle de celui qui a fondé la ville, mais en le célébrant, en le racontant, on rejoue à notre tour cette fondation. Le héros, ce n'est plus Thésée, ce sont les Athéniens rejoignant Thésée, les lecteurs lisant ses aventures, les écrivains reprenant la légende. Si le mythe et les rites permettent donc d'expliquer le monde social, ils permettent aussi de le manipuler et de devenir de simples lecteurs, héros d'un récit que l'on a soi-même construit.
Merci Géraldine, rappelez-nous le titre de l'ouvrage de Claude Calam dont vous venez nous parler.
Thésée et l'imaginaire athénien, légende et culte en Grèce antique, c'est paru aux éditions de la Découverte, c'est reparu aux éditions de la Découverte.
C'est noté, votre chronique est à réécouter en ligne sur le site du journal de la philo. Un grand merci à Isis Jourda qui a préparé cette émission, ainsi que Marianne Chassor, Maud Markiewicz, David Pargamin, Géraldine Mosna-Savoie, Olivier Bétard qui réalise cette semaine, Bruno Gagnère-Fontani qui était à la prise de son, et c'est le thème de cette semaine, Vincent Schmitt à la lecture des textes. On se retrouve demain pour la suite de cette série sur la philosophie du son. Demain, eh bien, ce sera Jean Lebrun qui sera mon invité, Jean Lebrun qui vous parlera de l'autre côté du poste, ça dépend où on se trouve, hein, et qui vous proposera notamment une histoire du son à la radio. D'ici là, pour écouter cette émission sur Bachelard et celle d'hier sur la prise de son en général, rien de plus simple, vous vous rendez sur le site de France Culture, page des Chemins de la Philosophie. Vous pouvez réécouter les émissions en ligne, mais aussi les télécharger, les podcaster, afin de les écouter où vous voulez et quand vous voulez, à l'heure où votre écoute est la plus attentive au son que nous vous proposons. Rendez-vous également sur les réseaux sociaux, Facebook, Twitter, Instagram, où nous mettons en ligne l'émission du jour et où nous attendons vos remarques et commentaires. On se retrouve demain à 10h donc, mais d'ici là, restez à l'écoute sur France Culture et surtout, montez le son.